Est-ce que c'est possible d'être catholique, croyant et non pratiquant? C'est vraiment quelque chose d'important. C'est comme un époux qui dit à sa femme, écoute, je t'aime, je suis marié, mais pas pratiquant, on se voit une fois tous les 10 ans, ça va comme ça? Il y a un mystère là derrière, vous voyez bien? C'est-à-dire, il y a une cohérence de la relation d'amour que l'on a avec Dieu dans la fréquentation de ce Dieu qui se révèle à nous. Et la fréquentation qui n'est pas seulement une fréquentation individualiste, personnelle, j'allais dire intimiste, ça c'est très important aussi, ça fait partie du dialogue d'amour que l'on a avec Dieu dans le cœur à cœur que l'on vit constamment avec lui, mais nécessairement une dimension communautaire. L'Église est le sacrement du Christ. Toute notre vie spirituelle est faite de sacramentalité. Si vous voulez, le sacrement, c'est un signe, un moyen efficace qui nous communique une vie divine. Et le Christ nous communique la vie même de la Trinité. L'Église nous communique la vie du Christ. Les sacrements nous communiquent toute cette vie qui vient de Dieu. Et au cœur des sacrements, il y a l'Eucharistie, qui est le résumé, l'aboutissement de toute la vie divine qui est communiquée aux hommes. Il y a une sorte de cascade de communication de la vie divine par des signes et des moyens efficaces qui nous donnent réellement l'amour de Dieu et la vie divine et qui aboutissent de la Trinité à l'Eucharistie, en passant par la personne de Jésus-Christ, le Verbe fait chair, en passant par l'Église et en passant par les sacrements de l'Église et du Christ, comme ça jusqu'à nous. Et au cœur des sacrements, l'Eucharistie. Donc le contact direct avec Dieu ne peut pas se faire en dehors de ce plan-là, ou normalement ne peut pas se faire en dehors de ce plan de Dieu, puisque c'est ainsi qu'il l'a voulu. Bien sûr, Dieu est libre et peut passer par tous les moyens pour toucher les cœurs immédiatement, comme ça, hein, directement. Et ça, c'est le grand mystère de l'Église, dont la frontière passe par les cœurs et qui saisit tout ce qu'il y a de beau et de grand dans toute l'histoire de l'humanité, sur toute la terre. Partout, il y a un geste d'amour qui est donné sur la terre, partout où il y a une parcelle de vérité qui illumine le cœur des hommes, déjà l'Église est présente, déjà le Christ est présent. Là où est l'amour, là est Dieu, disait saint Augustin. Et c'était toujours la foi de l'Église de croire à ce mystère de l'Église corps du Christ qui dépasse les frontières visibles de l'Église, de ce que l'on voit de la hiérarchie et des baptisés. Il y a un mystère de ramification au nom de l'amour qui a une source unique qui est Dieu lui-même. Mais il n'empêche que Dieu veut passer par des réalités sensibles, visibles. C'est tout le régime de l'incarnation. Dieu, le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait chair. Il est venu habiter parmi nous. Nous avons vu cette gloire qui resplendit sur le visage de Jésus. Toute notre vie de foi est toujours faite de ce mélange, de cette union entre le visible et l'invisible, l'humain et le divin. Et les sacrements sont justement le lieu par excellence de tout cela. Et donc la liturgie appartient à la vie baptismale, fait partie entièrement de la vie baptismale. Si on a vraiment compris notre être chrétien, on ne peut pas vraiment vivre de notre vie de Dieu sans passer par la liturgie. Il y a les catholiques non pratiquants, il y a les chrétiens non pratiquants, les croyants non pratiquants, puis il y a les catholiques pratiquants non croyants. Ça, c'est une autre race. Catholique, pratiquant, non croyant. Un jour, je prêchais une retraite et une personne me dit, moi, je suis catholique, pratiquant, non croyant. Alors, j'étais un petit peu surpris parce que c'est pas ce qu'on attend habituellement. Je disais, catholique parce que j'ai aucun problème avec l'Église et j'accepte ce qu'elle m'enseigne. Pratiquant parce que je vais à la messe régulièrement, bien sûr. Et non croyant parce que j'ai pas été saisi par le mystère de l'amour de Dieu. J'ai une sorte de ritualisme que je pratique comme ça, une sorte d'adhésion de mon intelligence à la révélation, à ce que l'Église m'enseigne, mais il y a quelque chose en moi qui n'a pas été encore transfiguré au profond. Et donc, la liturgie va être le lieu de l'unification de notre vie, de devenir un catholique pratiquant, croyant. C'est ça, hein, normal, quoi, si vous voulez. Quelque chose qui est tout imprégné, tout saisi par le mystère de Dieu, auquel la liturgie me met en contact direct. Et c'est un petit peu tout le sens de ce que Jean-Paul II rappelle de la vie liturgique, en demandant qu'il y ait vraiment une nouvelle catéchèse qui soit faite, une pédagogie nouvelle de l'Église par rapport à la liturgie, que dans sa pédagogie, l'Église sache oser proposer la vie liturgique à ses membres, et non pas permettre que, comme la culture moderne est en train de le proposer, qu'on se contente d'un petit minimum comme ça, mais qu'on rentre vraiment, y compris dans la liturgie des heures, qui est la prière de l'Église, celle qu'on vient de célébrer tout à l'heure avec la prière de l'office liturgique des Vêpres, voilà, que toute la vie, finalement, de communion avec Dieu soit célébrée également. L'Église a trois grands trésors, la sagesse des docteurs, de ceux qui enseignent, de ceux qui, depuis les apôtres, les pères de l'Église et tout ça, nous enseignent le mystère révélé, la vérité de la révélation de Dieu, le mystère de ceux qui ont vécu cette vie jusqu'au bout, les saints et les martyrs, l'héroïsme des saints et des martyrs, et puis le mystère de la splendeur, de la beauté de la liturgie. D'une part, c'est l'intelligence qui est touchée à travers les docteurs qui nous enseignent la vérité. De l'autre côté, à travers les martyrs et les saints, c'est la volonté, l'amour qui va être saisi. La lumière et la sagesse qui vont nous transfigurer. Et tout ça va être ramené dans la louange et l'adoration par le mystère de la liturgie.